Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, que de leurs plus beaux souvenirs ensemble. Et l'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes environ, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez au travers de ces expériences partagées vraiment apprendre de nos invités toutes les astuces qui font pour eux le secret du bonheur à deux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Chalalove sur le podcast, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Un grand, grand merci pour votre soutien. Et si vous voulez encore plus nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot doux ou même un avis sur iTunes, donc sur Apple Podcast, en nous disant pourquoi vous aimez le podcast, pourquoi il vous touche. N'hésitez pas à le faire, il suffit de taper donc Chalalove sur Apple Podcast, ça nous aidera énormément. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriella et Pierre-Antoine. Gabriella et Pierre-Antoine sont tous deux musiciens. Ils se sont d'ailleurs rencontrés durant leurs études au prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Jusque-là, en tout bien, tout honneur. C'est seulement plusieurs mois plus tard qu'ils reprennent contact, on doit le dire via l'instigation de Pierre-Antoine, sur Facebook pour continuer à échanger. Il avait une petite idée derrière la tête. Et leur première rencontre passée inaperçue pour Gabriella prend une toute autre tournure. Nos deux tourtereaux sentent au fil des semaines qui passent à échanger qu'ils ont mis la main sur quelque chose de vraiment spécial. Ils ne s'y trompent pas d'ailleurs puisque dès qu'ils se revoient, tous deux tombent quasi immédiatement amoureux. Ils savent très vite que c'est la bonne personne. Aucun nuage à l'horizon, ils sont heureux à deux et naturellement commencent à penser aux prochaines étapes de leur couple. Pourtant, alors même que Pierre-Antoine se prépare à faire sa demande, il est soudain hospitalisé. Le diagnostic terrible tombe. Risque très important de leucémie. Gabriella et Pierre-Antoine voient leur monde s'effondrer autour d'eux, avec leurs parents d'ailleurs, proches d'eux. Heureusement, le diagnostic était prématuré et Pierre-Antoine s'en sortira avec plus de peur que de mal. Néanmoins, ce moment si douloureux, si marquant, leur fera prendre une folle conscience du temps qui passe et de la chance qu'ils ont eue de se trouver. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gémio. Salut à tous les deux et bienvenue sur Chalalove.
Bonjour. Bonjour.
On est ravis de vous accueillir et pour commencer, j'aime bien demander de vous présenter. Est-ce que Pierre-Antoine, tu peux commencer s'il te plaît?
Très bien. Donc je m'appelle Pierre-Antoine, j'ai 29 ans, voilà, je suis pianiste, compositeur et pédagogue. Voilà. Donc... Pour résumer un petit peu, donc, je suis avant tout fan de musique, voilà, je suis également épicurien, voilà, j'aime la cuisine, j'aime jardiner.
Bah, t'es lyonnais en même temps, d'après voilà. Ce que je comprends. Donc,
j'ai des racines aussi bourguignonnes voilà, du côté de Mâcon.
Très bien.
Et puis avant tout, j'aime ma femme. Voilà. Et ça, c'est le plus important, je crois.
C'est vrai, ouais. Surtout sur Chalalove. Et toi, Gabriella, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors, donc, moi aussi, je suis musicienne, comme Pierre-Antoine. Donc, moi, je fais de l'alto. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'alto, c'est un instrument qui ressemble au violon, sauf qu'il est plus gros et plus grave.
Et tu dis souvent plus beau.
Plus beau, voilà.
Voilà.
comme Pierre-Antoine, je suis aussi enseignante d'alto et de violon. Je joue avec pas mal d'orchestres en région lyonnaise et moi, par la force des choses aussi, je suis devenue épicurienne puisque j'ai un très bon cuisinier à la maison et voilà.
Super, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez commencer par me raconter en fait l'histoire de votre rencontre? Je crois que c'était dans le cadre justement de vos études de musique, c'est ça?
Tout à fait.
Tout à fait.
Alors qui commence?
Ok, alors j'y vais.
Vas-y,
parce que c'est moi qui m'en souviens. Alors, Pierre-Antoine faisait partie de classe de composition du Conservatoire National de Paris. Mmh. Et puis donc en fait, dans le cadre de ses études, il fallait qu'il écrive des pièces avec ses camarades. Et puis chercher une altiste pour jouer les œuvres, parce qu'ils n'avaient personne dans l'établissement. Mmh. Et donc du coup, un ami commun m'a dit « bah, est-ce que ça te dirait de le faire ?» Je lui dis « bah oui, moi avec plaisir ». Donc du coup, j'y vais, tout se passe bien. Je me souviens pas plus de ça de Pierre-Antoine.
Oh, alors, je peux pas le croire.
Je me souvenais pas.
Donc il paraît qu'on a eu une conversation très intéressante dont je me souviens absolument pas.
D'accord.
Et puis le soir du concert, Pierre-Antoine me dit « Ah mais toi t'es trop sympa, je t'ajoute direct sur Facebook ». Et moi je me disais « Mais c'est
qui est cette personne ?
Qu'est-ce qu'il veut ?» Et puis bah, de fil en aiguille, on a commencé à discuter et puis on s'est plus lâché après.
Voilà. Bah alors, bon, j'aimerais ta version de l'histoire, s'il te plaît, Antoine.
Non, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc Gabriela ne jouait, tu ne jouais pas dans ma pièce, voilà, exactement. Ça, ouais. Donc j'ai eu l'occasion de l'écouter sereinement, de l'apprécier. Voilà. Mm. On a discuté quand même, et puis le courant était bien passé. Bon, apparemment, tu t'en rappelais pas. Et donc, non, le soir du concert et la restitution du concert, on a un tout petit peu plus parlé. J'étais vraiment très enjoué par cette soirée, et puis également, bah, je t'avais.
Je te
voyais, ouais. Je t'avais dans le collimateur en quelque sorte, et on a repris contact en fait pendant l'été, voilà, ouais. L'été 2014, et on a discuté, juillet, août, voilà, et c'est vrai que...
Bah, ça c'est donc la discussion...
De fil en aiguille, ça a bien fonctionné,
voilà. Vous avez attendu un peu de temps quand même, ouais. C'est toujours intéressant cette période aussi, voilà, de découverte où bah, vous connaissiez mais sans vraiment vous connaître et ouais, vous commencez un peu à discuter. Et je dois dire que franchement dans Shalove on se rend compte que Facebook est le meilleur ami des couples parce que le nombre de couples qui se sont rencontrés dans la vraie vie et qui ensuite ont discuté sur les réseaux sociaux, c'est quand même incroyable, Facebook en particulier. Et donc vous, ça a duré combien de temps cette période un peu de...
Un peu plus de 6 mois,
drague, on peut le dire.
Alors, on s'est rencontrés en février.
En février, tout à fait. Le concert a eu lieu en avril. Ouais. Il y a eu une petite période de latence. Ouais. Et puis, juillet-août, vraiment...
Voilà, et en septembre, on s'est mis ensemble.
Voilà, septembre.
Et alors, désolée d'entrer dans les détails, hein, mais comment est-ce qu'à un moment donné... Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui vous plaisait chez l'autre? Parce que c'est quand même un peu particulier quand on est à distance comme ça, de discuter. Comment vous voyez aussi de temps en temps, ou c'était vraiment uniquement via le web?
Non, on s'est pas vu du tout pendant tout ce temps-là. Du concert jusqu'au moment où on s'est mis ensemble, on s'est pas vu et on a fait que discuter en fait par message. Et puis moi je me souviens très bien que donc on discutait de plein de choses, de musique. Forcément. Et puis de cuisine, de jardin, de voilà plein de choses. Et puis il y a eu un moment où on s'est appelé et on a passé je sais pas moi un truc comme 3 heures au téléphone et là je me suis dit oh purée. Et en même temps,
il est quand même sympa, c'est Pierre-Antoine.
Et Pierre-Antoine, en fait, quand, enfin l'été en tout cas où on s'est mis ensemble, il avait perdu un pari et donc il avait les cheveux décolorés, mais genre jaune poussin quoi.
Ah oui, d'accord.
Donc tu
le cachais en fait.
Voilà, bon, c'est sorti.
Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'étais plus jeune, je m'imaginais que j'allais passer ma vie avec un brun aux yeux noirs, enfin bref, n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, non, mais quand même, je peux pas mettre avec un blond, c'est pas possible.
Blond poussin.
Plus blond que blond, oui.
Et en fait, on s'est vus, et puis je me suis dit, allez, je m'en fiche.
Génial.
Donc voilà.
Et à ce moment-là, quand vous rencontrez, enfin, vous mettez ensemble, etc., comment ça se passe très rapidement, en fait, vous décidez que vous allez être un couple, que vous allez rester ensemble. Vous habitiez dans la même ville à l'époque ou c'était l'un de vous à Lyon, l'autre à Paris? Je ne me rappelle pas.
Plus ou moins.
C'est un petit peu ça, en fait. Moi, ouais. je montais uniquement du lundi au jeudi à Paris pour mes études. Gabriela était vraiment versaillaise parisienne. Voilà. Et donc, le jour où finalement on s'est rencontrés, on a bu un café ensemble. Il y a eu tout de suite beaucoup de tendresse. Oui, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on a très vite compris que ça allait aller dans la même direction.
Spécial, voilà.
Et donc, vous restez ensemble. Et cette période, justement, où vous faites un peu des allers-retours entre Paris, entre Lyon, avec les études, c'est pas forcément évident. Mais pour vous, en fait, c'était une évidence que vous alliez rester et tenter le coup, quoi.
Oui. Après, ça n'a toujours pas changé, en fait. Parce que là, on a tous les deux emménagé à Lyon. Quand moi, j'ai réussi un concours pour le Conservatoire National de Lyon, cette fois-ci. Sauf que moi, je rentre tous les week-ends à Paris pour travailler, parce que je suis prof dans un conservatoire d'arrondissement. Et Pierre-Antoine rentre chez ses parents tous les week-ends aussi. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on est ensemble. Et on n'a pas encore passé de week-end ensemble.
Ah ouais. Mais vous arrivez de temps en temps quand même à partir en vacances.
Oui, il y a les vacances scolaires, heureusement, on a de la chance.
Mais c'est vrai qu'en période scolaire, le rythme est soutenu et on vient un petit peu en décalé, c'est-à-dire du lundi au jeudi, on est ensemble et puis le week-end est un peu découpé.
Voilà. Et au final, justement, le fait d'avoir un peu de distance, je me posais la question, est-ce que c'est pas aussi un peu bénéfique parce que finalement, bah, vous pouvez faire vos trucs de votre côté, chacun. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation?
Bah, c'est sûr que ça nous a beaucoup unis, en fait. Je trouve, parce que le fait de ne pas être tout le temps l'un sur l'autre, tout le temps ensemble, c'est vrai que ça permet de respirer, ça permet de se manquer aussi, et ça permet aussi de rendre les retrouvailles plus belles, quoi.
Bah, bien sûr.
Et de profiter du temps qu'on a tous les deux ensemble, parce qu'on sait que jeudi soir, c'est fini.
c'est clair.
Oui, le temps ensemble, du temps de qualité, et puis le fait de retrouver quand même... Voilà, moi, j'ai des amis dans le Mâconnais. Chacun sa petite vie, son petit jardin secret. Et par contre, le temps qu'on passe ensemble
c'est pour nous.
Et utile, quoi.
Voilà. Donc vous êtes finalement pas si malheureux entre guillemets de la situation. Non. Et vous envisagez de continuer sur ce rythme assez longtemps ou...
Ça va changer là dans un mois.
Oui.
D'accord. Et donc là maintenant ça va être 7 jours sur 7.
Alors pas tout à fait. Parce que moi je vais continuer de travailler à Paris. Donc en fait on va acheter un appartement en région bourguignonne pour que Pierre-Antoine puisse continuer de donner ses cours tranquillement, etc. Et puis, donc du coup, ça me permettra de passer soit le samedi soir, enfin, on s'arrangera comme on pourra, pour passer un peu plus de temps ensemble, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien passer à la prochaine étape.
Vous êtes mariés, on va voilà. en parler, on va en parler. Justement, avant de parler de ça quand même, je voulais évoquer un autre moment qui est important, je pense, dans la vie d'un couple, c'est quand vraiment on se dit... Ok, là, ça commence à être vraiment très sérieux et c'est une personne avec laquelle j'ai envie de bah, peut-être passer la fin de mes jours. Alors, c'est peut-être pas encore la demande en mariage, mais est-ce que vous vous rappelez l'un et l'autre vraiment de ce moment où vous vous dites « Oui, il se passe quelque chose et c'est différent, c'est la bonne, c'est peut-être le premier « je t'aime », mais est-ce que vous vous rappelez d'un moment comme ça ? »
Très vite.
Oui.
Très vite, pas plus d'un mois. Ah, c'est-à-dire au bout de deux semaines, j'ai senti... De par mon tempérament, je pense, et de par peut-être mon éducation aussi, quand je fais quelque chose, je me lance à fond. Et puis, il n'y a pas eu besoin de se forcer finalement avec Gabriella. Et oui, les beaux ressentis sont venus très, très vite. Mmh. Et les premières déclarations sont venues aussi très, très vite.
Et que tu as bien accueilli, Gabriella.
Voilà, que moi aussi. Moi, je me suis dit, je m'en souviens très bien, au bout d'une semaine, je me suis dit, celui-là, va pas falloir le laisser partir.
Une semaine, c'est dingue.
Ouais, ouais. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une chance, mais tous les deux, on avait déjà vécu avant. On avait eu chacun des histoires qui nous appartiennent. Du coup, c'est vrai que quand j'ai rencontré Pierre-Antoine, j'ai vu toutes les qualités et tout le potentiel et tout ce que j'aimais chez lui. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour passer le reste de ma vie avec lui. Puis, c'est vrai que j'ai rencontré ses parents super vite. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. Et lui, il a rencontré mes parents au bout de même pas 2 mois, je crois. Et donc voilà.
Bah, j'ai plein de questions justement parce que donc vous mettez, vous tombez amoureux en fait hyper rapidement.
Oui.
Et c'est hyper intéressant ce que tu disais quand tu parlais de la relation avant que tu avais pu avoir ou toi aussi Pierre-Antoine qui était différente. Moi, j'aimerais comprendre en fait en quoi, qu'est-ce qui t'a plu en fait au fond et quelles sont ces qualités qui t'ont tellement plu chez Pierre-Antoine et qu'est-ce qui était différent, qu'est-ce qui comptait pour toi que tu n'avais pas vécu avant.
Bah déjà, Pierre-Antoine, c'est quelqu'un de très drôle. Alors...
Il va falloir qu'il nous fasse des blagues.
Ouais, c'est ça. c'est vrai, il est très drôle. Il est toujours souriant, toujours gentil. Il a toujours un petit mot mignon. Enfin, voilà.
On ne s'ennuie pas.
Et puis, voilà. Et puis, il a une façon de prendre soin des gens, je trouve, que ce soit ses parents, sa famille, ses amis, moi, même ma famille à moi. Enfin, qui est maintenant sa famille aussi, hein, forcément. il a toujours un petit mot gentil. Enfin, vraiment, je trouve... C'est quelqu'un de bien, quoi. Et ça court pas les rues, je trouve.
Non.
Et puis, en fait, on a le même projet de vie. Et c'est ça qui aussi fait que ça rend l'amour possible, je trouve. Parce que c'est vrai que quand on est musicien, en fait, on n'a pas d'horaire, en fait. Par exemple, moi, je sais qu'au mois de novembre, je vais beaucoup travailler avec des orchestres. Au mois de décembre, pour le moment, j'ai pas mon planning. Je sais que si j'ai des orchestres qui m'appellent au dernier moment, il faut que je sois disponible. Ouais. Et ça, il faut que la personne avec qui je vis puisse comprendre. Donc, c'est vrai que...
Ce manque d'anticipation, c'est vrai que dans la vie d'un couple, j'y avais pas pensé, mais ça doit être assez difficile à gérer quand l'autre le comprend pas forcément, quoi.
Là, j'ai pas à me plaindre. Vraiment. Donc, et puis l'année dernière, quand j'ai passé mon master, du coup, en fait, quand on passe un master en musique, il faut faire un récital. Donc, un récital, c'est un grand concert qui dure 1 heure, sur lequel, en fait, on fait un programme libre, on montre ce qu'on a envie de faire, quoi. Et donc, moi, j'avais choisi, féminisme, j'avais choisi un concert autour des femmes compositrices, parce que c'est pas du tout représenté.
Ouais,
et donc, du coup, Pierre-Antoine m'a aidée pour tout ce qui était. J'avais des textes, en fait, je lisais des textes, et donc Pierre-Antoine est monté sur scène avec moi pour pouvoir,
Oui, donc
déclamer
c'était un vrai travail d'équipe. Quoi.
Voilà.
Super.
On a essayé.
Et ça s'est bien passé.
Oui, super, vraiment super, on mentionne très bien et tout, c'était vraiment super. Et puis, en fait, c'était pas que pour ça qu'il m'a aidée, c'était aussi pour toute la préparation, parce que quand j'avais des répétitions et que je faisais 8h-22h, j'avais toujours mon petit sandwich qui était prêt le matin. Voilà, le ménage fait, tout, nickel.
Donc, tu en fais tout autant. Hein.
Oui, oui, non, mais bon, ça compte quand même. Donc c'est vrai qu'on est vraiment une équipe, on peut compter l'un sur l'autre et voilà. C'est ça le plus important, je trouve.
C'est clair, c'est clair.
Et c'est ça que j'ai vu dès le début, je pense.
Et toi, Pierre-Antoine, si je te retourne la question, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu de différent aussi chez Gabriella par rapport à tes autres histoires ? Qui a fait que comme ça, en une semaine, alors c'est peut-être pas explicable, hein, mais qu'en une semaine, quand même, tu t'es limite dit, c'est la bonne, quoi.
Pleine de vie, pétillante, charmante, voilà. Et non, une façon de, voilà, de s'exprimer, une façon de communiquer. Il y avait un genre de ressenti quand on parlait des choses non dites, finalement, qu'on partageait. Voilà, et une personne passionnée dans tout ce qu'elle fait. Un peu, on va dire, à l'opposé de mon caractère. Donc, je suis quelqu'un qui est posé, qui a besoin de prendre son temps. Et au contraire, elle me tire. Elle me fait faire des projets.
Des voyages.
Sortir de ta zone de confort.
Voilà, non, c'est clairement ça. Donc c'est difficile parfois, mais je me rends compte que c'est pour mon bien. Et puis que de toute façon, dans la vie, il faut avancer dans cette direction-là. Et non, et puis c'est véritablement, comme elle l'expliquait, dans un métier où on a beaucoup d'incertitudes, c'est quand même rassurant de se sentir compris, de se sentir soutenu, voilà, quoi qu'il arrive, parce que ce dont parle Gabriella par rapport à ses récitals, à tout ça, je l'ai vécu également de mon côté, pendant mes préparations de master de culture musicale, beaucoup de soutien, beaucoup de choses préparées à l'avance, voilà, et ça compte,
ouais,
ça
sûr.
Compte vraiment.
Ouais, c'est sûr, ça crée un lien, une compréhension entre vous, quoi. Je franchis un petit peu les étapes, mais donc tout se passe le mieux du monde entre vous. Et à un moment donné, si je ne me trompe pas, donc vous commencez à envisager de vous fiancer. J'aimerais comprendre comment. Et puis je crois aussi savoir qu'il y a eu un événement quand même assez difficile dont tu m'avais parlé, Gabriella, dans ton mail. À quel moment donc est-ce que tu commences à te dire, toi, Pierre-Antoine, ok, on va passer quand même à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est a priori les fiançailles.
C'était au bout de 3 ans, c'était juste à la rentrée, c'était 2017, voilà. Ouais. Et le rythme était quand même très très soutenu en ce début d'année, on avait prévu un super voyage à Londres, et malheureusement je suis tombé vraiment de fatigue, on va dire. Au début, heureusement au final, ce n'était que de fatigue, mais on a supposé des choses un tout petit peu plus graves.
Ouais.
Et il s'avère que ça a un peu tout chamboulé dans ma tête, parce que j'avais prévu de faire ma demande
à
Londres. et je me suis rendu compte par cet événement que j'avais pas de temps à perdre. Ouais. Voilà, il fallait avancer.
Hein? Si ça vous dérange pas de rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour qu'on comprenne en fait pourquoi tu as eu ce chamboulement, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
J'ai eu un coup de fatigue, je me suis retrouvé aux urgences et ils m'ont fait un petit peu macérer, on va dire, pendant 48 heures sans vraiment savoir ce que j'avais. J'ai été transféré dans une unité d'oncologie.
Ah oui.
Donc déjà,
rassurant,
on
quoi.
Se pose des questions. Et là, quand on voit arriver la grande ponte avec tous ces internes autour d'elle et qui vous palpe un petit peu et qui vous dit, vous voyez, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, qu'est-ce qui se passe ? Bon, monsieur, on suspecte fortement une leucémie. Voilà, alors que...
À l'époque, t'as quel âge ?
J'avais 27 ans.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et moi, j'étais dehors, à l'extérieur de la chambre avec ses parents et on l'entendait crier. Et c'était un peu difficile.
Non, je faisais pas le fier.
Non, mais c'est normal. Hein.
Ouais,
c'était vraiment difficile. Et par contre, l'équipe soignante était vraiment au top. Ils m'ont autorisé à rester dormir le soir même à l'hôpital. Ils nous ont donné des cachets pour dormir. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. c'était vraiment difficile.
Mais il y a eu 24 heures comme ça.
Ouais, parce 24 heures où tu crois que tu as une leucémie.
Voilà.
Clairement, le mot était dit. Mais ils attendaient encore certains tests de ponction lombaire, etc.
Voilà.
Donc, il faut vraiment relativiser maintenant, se dire, voilà, il y a eu 24 heures difficiles, mais après, quand ils nous disent...
Ils nous ont dit, en fait, c'était pas tout à fait ça, en fait. Ils nous ont dit, c'est pas une leucémie, c'est sûr, mais on sait pas trop ce que c'est. Bon, il y a des trucs qui sont pires que la leucémie, quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas rassurés non plus, quoi. Finalement, il s'avère que c'était... comment ça s'appelle ?
Une mononucléose avec un autre virus en même temps.
Oui, donc ça t'avait achevé.
Voilà, exactement.
Et donc, pendant tout ce temps-là, moi, je devais porter la charlotte, le masque, les gants, la combi et tout. Et puis il y avait des fois, il me disait il faut la mettre, après il me disait il faut l'enlever, après il faut la mettre, après il faut l'enlever. Alors du coup, bon, mais j'ai rien attrapé moi, j'ai eu du bol.
Et toi, en fait, pendant ce temps-là, c'était pile au moment où tu aurais voulu faire ta demande. Tu ne peux pas faire ta demande, si je résume, parce qu'en fait, bah, t'es hospitalisé.
Pile au moment où je suis hospitalisé.
Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Quand, au moment, est-ce que tu arrives à. Je suis désolée de te faire remonter dans ces souvenirs désagréables, mais quand tu te dis j'ai peut-être une leucémie, j'ai la femme de ma vie qui est dans la salle d'à côté et en fait j'étais sur le point de faire ma demande, mais dans ta tête ça doit être
non mais vous résumez tout finalement, c'est ça, c'est,
ça doit être le je sais pas comment dire, mais la tempête totale quoi dans ton esprit. Qu'est-ce qui se passe?
Bah, l'envie d'aller vite, mais de toute façon il y a une chose qui a toujours été très présente dans ma tête, c'est que j'étais soutenue à 200% par Gabriella, ma famille également. Je ne suis pas seule, ce qui est une chance énorme.
Oui, c'est sûr.
Et quand, quelques jours après, les possibilités les plus graves ont été éloignées, je me suis dit, on ne perd pas de temps, quitte à... Bon, ça aura une saveur un peu particulière peut-être pour Gabriella, mais je... Voilà,
Mais donc,
du coup,
donc en fait, tu as été assez rapidement, c'est
dans l'hôpital.
Dans l'hôpital.
Dans la chambre d'hôpital. C'était très rigolo, la demande en mariage. Parce qu'en fait, la bague était déjà faite. D'accord. Donc, je savais très bien que ça allait arriver au bout d'un moment. D'accord. Mais moi, je pensais que ça allait arriver à Noël. Je sais pas pourquoi.
Oui, bah tu pouvais pas dire qu'il allait le faire dans l'hôpital.
Enfin, je pensais pas qu'il allait le faire à Londres non plus d'ailleurs.
Ouais.
Et en fait, ses parents sont venus nous voir le matin. Et puis ils étaient vachement bizarres. Son père, il arrive, il dit moi je veux voir un truc avec la carte vitale. J'étais là, mais bonjour. Et sa maman, oui, moi je vais aux toilettes, alors qu'il y en avait dans la chambre puisque Pierre-Antoine était en isolement. Et bon, je me suis dit, allez, c'est bon, je sais ce qui va se passer, j'en suis certaine, parce que la veille, il avait dit au téléphone, il m'avait dit, non, mais ça sert à rien d'attendre, c'est ridicule. Bon, donc moi, je me suis dit, tiens-toi tranquille, Gabriella.
Un petit coup de
c'est
blush
maintenant.
Encore.
Et donc, du coup, comme il était encore un petit peu faible, il n'a pas réussi à se mettre sur un seul genou, donc il s'est mis sur les deux. C'était vraiment trop mignon. C'était vraiment trop mignon.
Trop mignon.
Ouais.
Bon, évidemment,
et donc, j'ai dit oui, forcément. Et puis, toutes les infirmières étaient au courant.
Elles
étaient super contentes. Elles nous ont dit, pour une fois qu'on a une bonne nouvelle.
Ouais, c'est t'imagines donc, au service oncologie de
oui,
pas avoir...
ça doit pas être joyeux. Ouais. Ouais. Mais on a eu de la chance, vraiment. Elles étaient vraiment super.
Oui, et puis, il faut vraiment relativiser parce qu'il y a des personnes à qui ça arrive réellement. Donc,
oui,
bien sûr.
Bien sûr, au final, vous en êtes très, très bien sortis. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve intéressant d'avoir vécu, en tout cas psychologiquement, ce que vous avez vécu. Parce que finalement, l'impact, c'est que vous avez pris cette décision encore plus vite. Vous pensez donc que ça a accès... Enfin, toi, en tout cas, si je m'adresse à toi, Pierre-Antoine, concrètement, tu as pris la décision plus vite de... Tu avais décidé que tu allais te fiancer et te marier, mais ça a fait accélérer ton processus, c'est sûr.
Oui, complètement. Voilà, il fallait pas traîner, il fallait la rendre heureuse et il fallait avancer tous les deux. Voilà.
Génial. Bah, écoutez, merci pour ce partage, en tout cas. Et donc là, si je ne me trompe pas, vous êtes mariés.
Voilà.
J'ai appris ça à l'instant. Et donc... entre ces fiançailles et finalement votre mariage, il y a eu combien de temps?
Presque 2 ans.
Presque 2 ans, donc c'est assez
long. Parce qu'on s'est fiancés un 27 octobre et on s'est mariés le 27 juillet de 2019.
Bah, félicitations.
Voilà.
Et alors déjà, pourquoi aussi long? Parce que organisation, tout simplement.
Oui, et puis en fait, nous, on voulait se marier un 15 septembre parce que c'est la date à laquelle on s'est mis ensemble.
Oui.
Et en fait, c'était vraiment trop compliqué parce que pas de samedi qui tombe le 15 septembre.
Rentrée scolaire.
Et voilà,
ouais,
surtout
oui,
ça. En termes d'organisation, c'était compliqué. Donc, en fait, on a trouvé un lieu magnifique en Bourgogne avec les vignes, etc. C'était vraiment magnifique. Et puis des chambres, c'était surtout ça qu'il nous fallait parce que moi, il fallait déplacer toute ma famille, même du Chili. Donc,
oui, t'es d'origine chilienne.
Voilà, du côté de mon père. Et donc, du coup, ce lieu, vraiment, c'était... Enfin, ça réunissait toutes les qualités qu'on voulait. Et puis donc, ils nous disent, écoutez, pour les mariages 2019, il nous reste 2 dates. Donc, on était en février 2018. Donc, du coup, on a choisi le 27 juillet. Et puis, on a tout organisé à partir de là. On a tout fait nous-mêmes. Alors, on a eu beaucoup d'aide de la part de nos parents. Et puis, on s'est fait aider par des prestataires formidables. On a eu vraiment beaucoup de chance pour cette organisation.
On a... Le top.
Ouais. C'était vraiment
bon,
une magnifique
passé,
journée
comme
il
vous l'arriviez.
Il a juste plu, mais...
Oui, bon, ça arrive. Mais...
Sur une semaine de canicule à 40 degrés, quand on arrive le jour où il ne fait que 30 degrés, on est content.
Oui, c'est pas faux.
Voilà.
Tu vois.
Mais en plus, on a eu de la chance parce que c'était donc le week-end, le fameux week-end où il a beaucoup plu en France.
Ouais.
Et donc, du coup, Météo France prévoyait de la pluie toute la journée. Donc, il a beaucoup plu tout le matin. Et puis quand on avait rendez-vous à 14h45 à la mairie, juste avant le mariage civil. Et puis il a arrêté de pleuvoir. Il a plu quand on était à l'intérieur de la mairie. Ensuite, quand on est sorti, il a arrêté de pleuvoir.
Mmh. On est vraiment passé entre les gouttes.
Ouais, ouais, ouais. Et puis il a recommencé à pleuvoir juste après l'église quand on a terminé les photos de couple.
Impeccable.
Et à partir de là,
petit soleil juste pendant les photos, non, ensuite redéluge après.
Voilà, oui. Par contre, le déluge là, on pouvait même plus sortir sur le lieu du mariage. Ils avaient des super beaux extérieurs, on n'a pas pu les utiliser, mais bon.
Bon, ça arrive. Écoutez,
oui, il y a pire.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de vos familles et de vos parents, et puis aussi, tu disais Gabriella que vous étiez, enfin, t'avais en tout cas toi rencontré les parents de Pierre-Antoine assez rapidement. Mm-hmm. C'était quelque chose qui était important justement pour vous. J'ai l'impression que vous êtes très proche de vos familles. Alors toi, peut-être si ils sont loin, pour certains, c'est moins facile. Mais c'est pas toujours évident quand même quand on se met ensemble de présenter rapidement son conjoint. Ça se passe pas toujours parfaitement aussi parce qu'il y a parfois des enjeux, etc. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça s'est passé? C'était naturel? Enfin, et est-ce que c'était important pour vous justement cette première rencontre? Comment vous l'avez organisée?
Oui. Ben moi, je vais juste dire un truc. Mes parents adorent Pierre-Antoine. De toute façon, tout le monde adore Pierre-Antoine. Et c'est vrai. Et en fait, j'avais passé... Donc, en France, il y a deux conservatoires nationaux. Il y a celui à Paris, celui à Lyon. Donc ouais. Moi, j'ai tenté celui de Paris. Et Pierre-Antoine a fait le déplacement. Il est venu en TGV pour me soutenir. Et quand je suis rentrée chez moi, mon père, il m'a dit « Celui-là, il ne faut pas le lâcher. » Et donc, bon, je dis pas que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour suivre le conseil de mon père, mais...
Mais ça fait plaisir.
Mais, oui, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que mes parents sont ravis que j'ai rencontré Pierre-Antoine et que je me sois mariée avec lui. Mes frères et sœurs l'adorent aussi.
Mais c'est hyper important
donc,
quand
oui,
même.
Oui, oui. Et donc, c'est vrai que Pierre-Antoine fait partie de ma famille, voilà. Et donc, c'est super. Moi, j'avoue que c'est vraiment... c'est ce qu'il y a de plus important pour moi.
Et
Oui, je le ressens vraiment comme ça.
Ouais.
Ouais, sa famille est très bienveillante, très généreuse, voilà, par le cœur et par tout le reste. Et c'est très, très important.
Ouais. Et alors, comment ça se fait que tu as présenté ou que Gabriella s'est présentée à tes parents aussi rapidement dans votre histoire de couple, un peu par hasard? Ou c'était important pour toi d'avoir une validation, entre guillemets?
Non, mais finalement... Chose que je n'ai pas précisé, je suis enfant unique. Mmh. Voilà. Et quand Gabriella a rencontré mes parents au bout de 2-3 semaines, voilà, c'était un week-end comme les autres. Voilà, j'ai dit à mes parents, voilà, je fréquente une charmante
demoiselle.
Voilà. Et non, mes parents étaient vraiment ravis, ils sont toujours ravis, voilà, de cette relation, de cette union. Et voilà, et m'ont soutenu dans mes choix et aiment aussi beaucoup Gabriella. Voilà. Même malgré des petits points de tension comme il peut y avoir de partout.
Forcément.
Mais ce qu'ils ressentent au fond d'eux, c'est quand même voilà, beaucoup d'amour.
Et puis les parents avec enfants uniques aussi, c'est je pense moins facile que quand les parents ont plusieurs enfants. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient très attachés à toi, Pierre-Antoine. Une question que je pose souvent, le défaut qui vous fait hurler, qui vous donne envie de vraiment mais taper votre tête contre le mur quand vous le voyez chez l'autre et que vous pouvez secrètement nous avouer ici.
Vas-y, je t'en prie, commence parce que ça m'intéresse.
C'est le moment où les couples dans Shadow Love se regardent avec un regard assez réprobateur.
Non, c'est souvent quand on a dit aujourd'hui dans nos emplois du temps de fou, c'est une journée un peu calme,
ouais.
c'est tranquille. Ah, il y a toujours quelque chose de prévu, il va toujours se passer quelque chose et étant une personne qui a besoin de... Parfois, je peux le prendre un peu...
C'est vrai que je suis un peu speed.
Voilà.
Parfois, t'aimerais un peu plus de calme, quoi, et un peu plus de temps pour toi.
C'est ça.
Très bien. Et toi, Gabriella?
J'accepte. Je suis désolée, hein, mais ça va faire très cliché. Et en plus, je crois que je ne l'ai pas entendu qu'une seule fois dans Gémio.
Ouais.
Alors, je trouve qu'on est très 50-50 dans le ménage, donc ça, c'est top.
Génial.
Ouais. J'ai vraiment beaucoup de chance.
Bah même, il te fait des petits sandwichs avant que tu ailles.
Ouais, ouais, ouais. Donc,
quand
en
même,
plus, ils sont super bons. Hein.
Là, il est en train de fermer les yeux, je vous dis, messieurs, ouais. dames. Que
parce
là,
qu'il
il
sait très bien. Il sait très bien.
Il est en train de lui tomber dessus, là. Il sait très bien.
Alors, ça fait donc bientôt 5 ans qu'on habite ensemble.
Ouais.
Et monsieur Pierre-Antoine a toujours cette habitude qui me fait hurler, c'est de mettre le torchon en bougnon. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'il a terminé d'utiliser le torchon, mais pas pour sécher la vaisselle, hein, pour faire plein d'autres trucs. Le torchon, je le retrouve en boule
D'accord.
N'importe où dans l'appartement. Voilà.
Il y a eu un peu de progrès quand même.
Oui, un petit peu, oui.
D'accord. Bon. C'est une petite habitude. Une petite habitude. C'est un peu sa manière de te montrer qu'il est
qu'il
là.
Est là, voilà, tout à fait.
Merci. C'est ça.
C'est pour se rappeler à ton bon souvenir, quoi. C'est très bien, très bien. Justement, c'est intéressant, vous parliez de la répartition un peu des rôles à la maison. Et bon, tu disais 50-50, et franchement, c'est pas si fréquent que ça, en fait, hein, que ça soit bien équilibré comme ça. Oui. Pour vous, ça a été un sujet, et comment vous êtes un peu répartis les rôles à la maison ?
On essaye. Pour moi, c'était difficile, parce que j'avoue, étant enfant unique, il y a des choses, on m'a un petit peu...
gâté.
Voilà, clairement. Donc... Le réflexe de juste poser le linge à un endroit et oh, comme par magie, il est rangé, il est nettoyé. Bon, non, bah, c'est normal, on vit à deux. Donc là, j'ai dû faire des efforts, c'était pas naturel pour moi. J'avais ma notion du nettoyage, parfois ma notion de ce qui est rangé, de
c'est
ce qui est propre.
Les standards sont pas forcément les mêmes.
Voilà, donc aussi se mettre d'accord là-dessus. Et puis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté.
Ouais.
Et c'est vrai que, en fait. Moi, j'avais vu sur Internet, alors ça va faire très cliché, mais bon, c'est pas grave, c'était un espèce de planning, en fait, où on met toutes les tâches qu'il faut faire dans la semaine, les prénoms.
C'est hyper bien.
Et puis, en fait, on met un petit bâton une fois qu'on a fait quelque chose.
Mais attends, c'est super.
Oui, c'est vachement bien.
C'est un super conseil, je sais pas pourquoi tu dis ça, je n'y avais jamais
pensé. Parce que ça fait un peu...
Oui, ça fait un peu
je flic, quoi. Et en fait, le truc, c'est que...
Mais ça responsabilise chacun sans... Parce que souvent, quand même, le problème, je crois qu'on peut le dire, et on a eu une coach qui nous a beaucoup dit ça sur le podcast Shalove, je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode, mais qui disait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'attentes de l'un ou de l'autre. En fait, si on ne se dit pas les choses simplement, l'autre ne peut pas le deviner.
Tout
quoi.
À fait. Et c'est vrai qu'en fait, moi, cette espèce de planning, ça m'a permis de réaliser tout ce que Pierre-Antoine faisait quand j'étais pas là et que je ne voyais pas forcément. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte quand on comptait les bâtons qu'on était plus ou moins à égalité, quoi.
Mais alors attends, juste ça m'intéresse, je suis désolée. C'est quoi les tâches, par exemple, que vous avez sur ce planning ?
Faire les vitres, faire la vaisselle, faire la manger,
le repassage.
Les
courses, ça compte pas.
D'accord.
Non, parce que c'est compliqué en termes d'organisation de semaine, donc c'est moi qui les fais généralement.
Okay. C'est vrai.
Voilà.
D'accord, mais c'est toutes les tâches ménagères qui sont listées. D'accord.
Faire les poussières. Donc en fait, il y a des trucs... Il y en a un qui les fait et pas l'autre. Par exemple, le repassage, c'est moi qui fais.
Oui, bah, si,
mais
c'est pas
les poussières,
faire.
C'est lui qui le fait parce qu'il c'est le plus grand. Donc, il y a des endroits où je peux pas les atteindre dans l'appartement.
Organisation, non, mais c'est bien. C'est comme c'est une vraie équipe, quoi.
Oui,
non,
c'est
exactement
vrai.
Ça paraît très bien rodé maintenant, mais c'était. Faut dire quand on était en plein milieu de nos études. Parfois on a envie de laisser traîner, on a juste envie de rentrer le soir et d'être tranquille. C'était
et
pas
de
évident.
Mettre le torchon en boule, quoi.
Ça paraît idéal maintenant, mais il y a eu des moments de.
De tension.
De tension,
forcément. Justement en parlant des moments de tension, vos sujets de dispute, justement, c'est souvent lié à ce genre de choses, ménage ou etc., ou vous avez d'autres sujets qui reviennent de manière récurrente, et comment vous faites aussi pour désamorcer les disputes ?
Alors pour désamorcer,
je sais pas, mais pour les régler en tout cas.
Mais en tout cas, c'est Pierre-Antoine qui règle en général les disputes.
Je sais pas pourquoi je le sentais.
Bah c'est lui le plus gentil.
Le besoin de discuter, de dire bon, avec Gabriela, de toute façon, le besoin d'extérioriser, le besoin que la situation pète entre guillemets, c'est inéluctable. Et après, moi, le besoin de rattraper la chose et de discuter. Et de dire non, on part pas, on va parler.
Et alors, ta technique, c'est t'attends qu'elle ait fait sa petite crise pour ensuite aller la chercher derrière, ou t'essayes de le faire en amont, ou comment est-ce que tu t'organises ? Est-ce que t'attends un peu ensuite après pour
non,
que
j'attends
calme ?
Pas. Généralement, ça prend une heure et demie. Ouais, enfin, quand il y a vraiment eu des grosses tensions, mais on essaye de tout de suite discuter, de mettre les choses à plat pour pas qu'il y ait une petite goutte d'eau qui s'accumule, qui s'accumule.
Ça, c'est vrai que c'est quand même notre force, je trouve, c'est que. On communique beaucoup, du fait qu'on soit souvent éloigné aussi. On a appris à toujours parler et dire ce qui va pas, dire ce qui va. Comme ça, déjà, on se connaît mieux. Et puis, ça permet aussi d'anticiper les petits heurts qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que généralement, quand il y a des choses à dire, c'est souvent moi qui le fais. Et par contre, ça, c'est une chose... c'est tacite, hein. on s'est jamais dit en face, il faut pas qu'on aille se coucher en soyant fâchés l'un l'autre. Mais par contre, vraiment, on laisse pas les disputes comme ça envenimer la situation trop longtemps, parce que c'est pas sain.
Oui, vous avez pas eu le cas où vous parlez pas pendant une semaine ?
Non, jamais. Franchement, jamais. Et je pense que c'est même c'est bon pour nous, en tout cas, que les choses sortent tout de suite, peu importe la forme que ça prend, en fait. Parce que même s'il peut y avoir des mots blessants, finalement, on se pardonne quoi qu'il arrive. Et ça permet aussi de, voilà, de repartir sur des bases plus saines. Parce que c'est vrai que quand on organisait le mariage, c'est vrai qu'en fait, on ne vient pas forcément du même milieu tous les deux. Alors du coup, moi, mes parents sont fils d'immigrés et immigrés. Donc du coup, enfin, bon, par contre, ils ont beaucoup travaillé. Et puis maintenant, ils ont une situation qui est plutôt...
confortable.
Voilà, confortable. Et ses parents, c'est pas tout à fait voilà, ils sont pas du tout immigrés ou quoi que ce soit. Et voilà, ils ont une situation correcte aussi. Et c'est vrai qu'en fait, on ne fait pas les choses de la même manière.
Ouais, c'est sûr.
Et il y a eu des tensions, ça, on va pas s'en cacher.
Forcément, ouais. Ceci dit, vous savez, j'ai pas eu une seule personne sur Shalove qui m'a pas dit qu'il y avait pas eu de tension pendant l'organisation.
Oui, non, mais ça,
mariage,
on le savait très bien. On le savait très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je m'étais vraiment imaginé que ça allait être une organisation magnifique, qu'on allait réussir à mettre tout le monde d'accord. Mais ça, c'est parce que je suis un peu idéaliste aussi. Et donc, c'est vrai que ça, ça nous a un peu... Enfin, il y a eu des tensions, hein. C'est normal, je pense, quand on organise un mariage. Et c'est vrai que pour désamorcer les tensions, ça venait souvent de toi.
Il fallait faire des compromis.
Oui.
Entre nous deux, on a fait les compromis très facilement parce qu'on est,
habitué.
D'interlocuteur à interlocuteur. Mmh. Mais quand on devait faire l'interlocuteur interposé pour une des deux familles...
Ouais.
Pas évident, on n'a pas envie de les blesser, on n'a pas envie de leur faire mal, mais on a envie de leur faire plaisir, mais on n'a pas envie non plus que ça devienne leur mariage.
Ouais, c'est, voilà. Non, c'est très compliqué comme situation.
Et c'est vrai qu'aussi, ils ont plus d'expérience que nous. Donc, quand ils nous donnent un conseil, ça vient pas, c'est pas méchant, ouais, c'est pas pour...
On l'accueille, on l'écoute.
Mais c'est vrai que même si on n'est pas d'accord, c'était difficile de dire, bah non, on aimerait bien faire autrement, quoi. Mais bon.
Mais du coup, rôle de Pierre-Antoine, là, en médiateur.
Souvent, ouais, mais...
médiateur mariage.
Non, simplement, j'aime pas les situations de tension. Ouais. Donc, le seul moyen pour pas me sentir mal à l'aise et stressé, c'est de la résoudre, finalement. Mmh. Parce que c'est viscéral, après ça.
Ouais, ça faut prend pas ici. Garder ça. Ouais. Faut pas garder ça. Bon, mais du coup, le mariage est passé, vous êtes mariés. Moi, j'aimerais parler un petit peu des prochaines étapes, parce que vous me disiez donc que là, votre vie allait changer, finalement, parce que vous allez maintenant plus habiter ensemble, emménager peut-être dans un nouveau lieu, je sais pas. Quelles sont justement ces prochaines étapes? Bon, on peut s'en douter un petit peu, hein, mais...
Alors, bah, déjà, la prochaine qui arrive au mois de février, c'est le voyage de noces.
Ah, trop bien.
Oui, on va partir au Costa Rica.
Magnifique, ouais. Il paraît que c'est sublime.
Oui, oui, oui.
Bah, l'idée de Gabriella, voilà.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que on avait très envie. Bon, nous, on aime bien tout ce qui est nature, etc. Et c'est vrai qu'au Costa Rica, c'est encore de la nature qui est très préservée, avec des lodges en fait qui sont un peu écologiques, etc. Donc ça nous semblait très intéressant. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est un pays qu'on connaît pas du tout, ni l'un ni l'autre. Et donc on a de la chance de pouvoir partir presque 2 semaines. Voilà. En plus, quand il fera beau là-bas, donc
c'est chouette. Février, ça va être sympa.
Ça va être vraiment chouette. J'ai vraiment hâte. Et puis, c'est vrai qu'on a ce projet de... Enfin, c'est plus qu'un projet, hein, parce qu'on va signer bientôt pour l'achat du nouvel appartement. Donc ça va être...
En région lyonnaise, toujours.
Voilà, c'est ça.
Super.
Voilà.
Bon, écoutez, félicitations à tous les deux.
Merci.
J'aime poser une dernière question qui est au sujet des conseils que vous pourriez donner à la plus jeune version de vous-même. Justement, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez de vos précédentes expériences, mais aussi de celle-ci, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à la plus jeune Gabriella et le plus jeune Pierre-Antoine sur le secret du bonheur à deux? Qu'est-ce que ça serait?
Discuter tout le temps, parler, échanger, ne jamais laisser de non-dit. Et puis vivre les choses avec passion, toujours, voilà, parce que ça vaut le coup.
Oui, c'est vrai que la communication, c'est la clé. Et puis, essayer d'accepter l'autre, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, pas essayer de le changer. Mmh. Et puis, toujours le regarder avec bienveillance et avec beaucoup de respect.
Écoutez, merci à tous les deux. Ce sont de très beaux mots de la fin. Je vous souhaite le meilleur, un bel emménagement, un super voyage de noces. Vous nous enverrez des photos du Costa Rica.
Avec plaisir.
Et puis, je vous dis à très bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver le contact de nos invités sur le site de Gemio, www.gemio.com, rubrique podcast, ou découvrir même l'envers du décor du podcast en vidéo sur Instagram via notre compte qui est tout simplement @gemio. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, peut-être aussi nous proposer votre histoire d'amour, alors contactez-nous en message direct via Instagram, toujours au pseudonyme Gemio. On attend vos nombreuses candidatures. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux, une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos amoureux, vos proches. Nos invités méritent vraiment qu'on diffuse leurs témoignages autour de nous. Surtout, un grand, grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Shalalove.